le magazine des Nations Unies.
Bon dimanche et merci d'être à notre écoute. Il a rencontré le président Joseph Kabila après s'être entretenu avec le Premier ministre, puis quelques trois autres ministres. Ensuite, le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix a vu le gouverneur du Nord Kivu. La visite de Hervé Lassou dans le pays fait donc l'actualité de cette semaine. L'actualité de notre magazine, c'est aussi les 40 000 enfants à inscrire en première année primaire, dont 18 000 fillettes, dans le Kasaï occidental. C'est un objectif que s'est assigné l'UNICEF au cours de cette année scolaire. Et nous recevons ce dimanche comme invité le point focal de l'OMS Kasaï oriental. Ils s'entretiennent avec Chris Moukand sur le plan d'action humanitaire de cette province pour la période 2012-2013.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Cette semaine, l'actualité au sein du système des Nations Unies en RDC a été dominée par la visite qu'a effectuée du 9 au 11 septembre dernier le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix. À Kinshasa, Hervé Lassou a rencontré mardi le président Joseph Kabila après s'être entretenu la veille tour à tour avec le Premier ministre et les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Dans une déclaration à la presse à Kinshasa, il a indiqué que l'ONU est disposée à contribuer à la matérialisation de la force neutre entre la RDC et le Rwanda, laquelle n'est encore qu'un souhait des chefs d'État de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Pour Hervé Lassou, il appartient donc aux organes compétents au niveau de l'Union africaine et de l'ONU de déterminer les termes de cette force. Écoutez-le au micro de Innocent Olenga.
Ce que les chefs d'État de la Conférence internationale des Grands Lacs ont lancé comme message depuis Kampala, c'est l'expression de leur souhait. Reste que, à la fin des fins, c'est aux organes compétents de l'Union africaine et des Nations Unies, et dans le cadre des Nations Unies, au Conseil de sécurité, qu'il appartient de déterminer, de se déterminer sur un concept, mais qui, encore une fois, a besoin d'être précisé. Combien de troupes, selon quelle modalité, avec quelle mission exacte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire très vite et de manière très concrète. Nous avons besoin de ce qu'on appelle en termes militaires un concept d'opération, c'est-à-dire une véritable planification qui peut se faire rapidement, mais qui pour le moment n'a pas été encore réalisé. Il faut travailler là-dessus, nous sommes prêts à y aider et je crois que c'est ainsi que l'on pourra avancer pour que un produit élaboré puisse être soumis à l'appréciation du Conseil de sécurité.
Après Kinshasa, le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix s'était envolé mardi dernier à Goma où il s'est entretenu avec le gouverneur de province Julien Paluku et les responsables locaux de la MONUSCO avant de poursuivre sa mission le même jour au Rwanda et en Ouganda voisins.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'ONU, Organisation des Nations Unies, comme toute organisation humaine, a une terminologie usuelle propre dont nous allons avec vous essayer de comprendre certains de ses concepts. Et pour y arriver, nous recevons dans ce studio Florence Marchal, coprésidente du groupe de communication des Nations Unies en RDC. Florence, bonjour.
Bonjour.
D'abord, en peu de mots, c'est quoi et pourquoi l'ONU ?
Alors, il faut remonter à 1942, c'est la première fois que l'expression Nations Unies est apparue. Elle est due au président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, et c'était au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il était alors fait référence aux Nations Unies pour poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon notamment. Ensuite, à la fin de la guerre, en 1945, les représentants de 50 pays se sont réunis à San Francisco à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale. Fermement engagés à mettre un terme au fléau de la guerre, ils ont alors rédigé la Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945. Et à ce jour, 193 États sont membres des Nations Unies, l'ONU, dans le monde. Née des conflits, l'organisation a été fondée sur la conviction que les nations du monde peuvent et doivent coopérer afin de résoudre pacifiquement les conflits et améliorer la vie de chacun des habitants de la planète.
Et pour atteindre ces objectifs, en dehors de ses organes principaux, l'ONU s'est structurée en système. Comment définissez-vous un système onusien ?
Le système des Nations Unies, ce sont les organes principaux, mais également le secrétariat, les fonds et programmes des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organismes apparentés. Au total, une trentaine d'institutions qui ont pour mission de travailler ensemble dans le respect et pour atteindre les objectifs de la Charte des Nations Unies.
Donc les différentes institutions qui composent ce système sont soit des programmes comme le PNUD ou le PAM, soit des fonds comme l'UNICEF ou le FUNUAP, ou encore des institutions spécialisées comme l'OMS, l'UNESCO, la Banque mondiale ou le FMI. Il y a aussi des institutions apparentées ou des organes subsidiaires. Qu'est-ce qui différencie ces institutions les unes des autres ?
Alors, il existe en effet plusieurs catégories, mais l'appellation même des institutions n'a rien à voir avec le fait d'entrer dans telle ou telle catégorie. Le PAM s'appelle Programme Alimentaire Mondial, car au départ, c'était un programme de la FAO. L'UNICEF s'appelle Fonds, car au départ, c'était un fonds qui avait été créé juste après la Seconde Guerre mondiale pour venir en assistance aux enfants victimes de la guerre. Donc, il existe bien des catégories, mais qui ne sont pas liées à l'appellation même des organisations.
On peut donc dire que ces appellations sont issues des objectifs poursuivis par l'institution ?
Effectivement, les objectifs, mais aussi l'organisation.
Comment fonctionnent et sont financées les institutions onusiennes, selon qu'il s'agit d'un programme, d'un fonds, d'une institution spécialisée ou d'un organe subsidiaire ?
Alors, les fonctionnements et le financement dépendent de la catégorie à laquelle appartient l'organe et de ses statuts. Si on prend l'exemple du PNUD et de l'UNICEF, ils ont un organe directeur, et cet organe directeur, c'est un conseil d'administration de 36 membres qui viennent de pays développés et en voie de développement, et le PNUD et l'UNICEF ont leurs financements qui proviennent exclusivement de contributions volontaires. C'est-à-dire que les États membres des Nations Unies donnent volontairement, à la différence des contributions obligatoires, des contributions au PNUD et à l'UNICEF. Le HCR a un comité, quant à lui, exécutif de 79 membres et il est presque intégralement financé par des contributions volontaires, mais pour 2 ou 3% par des contributions régulières. L'OMS, qui est une institution spécialisée, elle est financée à environ un cinquième par les quotes-parts des États membres et aussi par des contributions volontaires. Et elle a un conseil exécutif composé de 34 spécialistes des questions de santé. Donc vous le voyez, autant d'institutions et autant de modes de fonctionnement et de modes de financement différents. Mais d'une manière générale, le financement est sur la base de contributions volontaires de la part des États membres.
En parlant de catégorie du système onusien, dans quelle catégorie peut-on placer les organisations comme OCHA et CPI, par exemple ?
Alors, OCHA, qui est l'acronyme du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, est un bureau du secrétariat, dont la mission est de mobiliser et coordonner l'aide humanitaire en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. Donc, OCHA est une structure qui dépend du secrétariat des Nations Unies. Le statut de la CPI et le statut de Rome, adopté en 1998. La CPI, la Cour pénale internationale, est indépendante de l'ONU et ne fait pas partie du système des Nations Unies. La coopération entre l'ONU et la CPI est régie par un accord négocié régissant leurs relations. Et dans les termes de cet accord, par exemple, le Conseil de sécurité peut lancer des procédures devant la CPI et peut la saisir. Mais ce sont deux organismes totalement dépendants.
Parlons un peu des autres concepts usuels dans la terminologie onusienne, tels que traités, déclarations et conventions, prénoms, déclarations des droits de l'enfant et conventions relatives aux droits de l'enfant. Y a-t-il une différence entre ces deux textes ?
Alors, tout d'abord un petit rappel, les traités, accords, conventions, chartes, déclarations sont les principaux instruments internationaux au moyen desquels les États se reconnaissent les uns et les autres des droits et des obligations. Alors, les conventions sont normalement ouvertes à la participation de la communauté internationale dans son ensemble. Exemple, la convention de 1989 relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. La convention relative aux droits de l'enfant est le premier instrument juridique international ayant force obligatoire en ce qui concerne la protection des enfants et elle énonce toute la panoplie des droits de l'homme civil, culturel, économique, politique et sociaux. Il est fait référence dans ce texte à la Déclaration des droits de l'enfant qui avait été adoptée 30 ans plus tôt en 1959, une déclaration qui est un un instrument sur lequel un texte sur lequel les parties se sont entendues, mais sans contrainte, à la différence de la convention qui, elle, a un aspect contraignant. Aujourd'hui, le travail des défenseurs des enfants, l'UNICEF en tête, dérive de la convention.
En un mot, on peut donc dire que la convention est contraignante et la déclaration, non?
Exactement.
Merci Florence Marchal. Je rappelle que vous êtes coprésidente du groupe de communication des Nations Unies en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci bien.
En bref, sachez que plus de 500 000 enfants de 6 mois à 14 ans ont été la cible d'une campagne de vaccination de riposte contre la rougeole dans 6 zones de santé de la province de l'Équateur, qui en compte 69, et cela du 11 au 15 septembre 2012. Cette campagne a été réalisée avec l'appui financier et technique de l'OMS et l'UNICEF. Les zones de santé concernées étaient Makanza et Ntondo dans le district de l'Équateur, ainsi que Pimou, Lisala, Binga et Mongala dans le district du sud d'Ubangi. De janvier au 2 septembre de cette année, la province de l'Équateur a enregistré 4 372 cas de rougeole, dont 133 décès dans 55 zones de santé. Autre nouvelle, cette fois au Sud Kivu, la problématique sur l'implication des femmes dans le processus de paix et de la sécurité dans cette province a été au centre des journées portes ouvertes. L'ONU Femmes a organisé ces journées de mardi à jeudi dernier à Bukavu en partenariat avec le gouvernement provincial. L'objectif de ces journées était de donner aux femmes participantes, à travers leur structure, l'occasion d'échanger directement avec les autorités locales sur leur engagement dans les processus de paix et dans la mise en œuvre effective de la résolution 1325. Les femmes encore à l'honneur, cette fois au Katanga avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Cette agence a continué à Lubumbashi son programme de sensibilisation à la lutte contre l'impunité des violences sexuelles et à la promotion des droits de femmes. Après une première séance organisée le 2 août, deux autres ont eu lieu le lundi 10 et le mercredi 12 septembre 2012 dans la même ville. La campagne organisée avec une ONG locale des droits de l'homme a concerné principalement les femmes rurales de la ville cuprifère. L'objectif était de renforcer leurs capacités et de les informer de l'existence des textes juridiques internationaux et nationaux de promotion et de protection des droits de la femme.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Agence onusienne et autorité provinciale du Kasaï oriental ont discuté et élaboré un plan d'action humanitaire de cette province pour la période 2012-2013. Les travaux ont eu lieu à Mbujimayi sous la direction d'un délégué d'OCHA. Chris Mukanda a approché pour nous Jean-Bruno Ngenze, c'est le point focal de l'OMS Kasaï oriental, pour en savoir davantage sur ce plan humanitaire. Suivons donc cet entretien.
Docteur Jean-Bruno Ngenze Kibunda, bonjour.
Bonjour.
Un atelier provincial s'est tenu fin août 2012 à Mbujimayi pour l'élaboration d'un plan d'action humanitaire pour la province du Kasaï oriental. Quels sont les axes de ce plan d'action et à combien on peut l'évaluer?
Je crois le 30 août, avec l'appui des OCHA au niveau national, nous avons, en tant que point focal humanitaire, organisé l'atelier d'élaboration de la stratégie provinciale qui doit contribuer à l'élaboration du plan d'action humanitaire pour 2013 au niveau du pays. Cet atelier qui a connu la participation de l'ensemble des humanitaires qui sont dans la province ainsi que des autorités de la place, c'est en fait inspiré des orientations de la note conceptuelle qui a été envoyée par le coordonnateur humanitaire. Dans cette note, il y a des objectifs qui sont des objectifs stratégiques sur lesquels nous devrions nous atteler, notamment les quatre objectifs qui ont été quelque peu améliorés pour cette année, mais qui ont été reconduits à partir de l'année passée. Il s'agit des objectifs ayant trait à la protection des populations civiles dans les zones confrontées aux conflits et des crises. Deuxième objectif, il s'agit de la réduction de la mortalité dans ces zones de santé, disons, je voulais dire, dans les zones confrontées aux crises. Troisième objectif, c'est l'amélioration, disons, des conditions de vie et la réduction de la vulnérabilité des personnes et des communautés dans les zones de conflit. Et enfin, il y avait un objectif concernant la restauration des moyens de subsistance de ces communautés. Nos discussions ont été axées sur l'analyse de la situation sur le plan sécuritaire et politique, l'évolution du contexte humanitaire, et puis l'analyse de la vulnérabilité et des besoins, les grands axes de réponse ainsi que les mécanismes de coordination. Comme vous pouvez le constater, il s'agit ici de la contribution du Kasaï oriental à l'élaboration du plan d'action humanitaire. Il n'y a pas deux plans d'action humanitaire, il y a un seul plan d'action humanitaire et ici il s'agit de la contribution du Kasaï oriental. Il n'était pas à ce niveau question de budgétiser, donc on a centré nos discussions sur ces grands axes.
Quelles ont été les particularités avec lesquelles les humanitaires du Kasaï oriental ont dû contribuer à ce plan d'action général?
Bon, vous savez déjà que les provinces de l'Ouest, appelées communément les zones stabilisées, ou au mieux les zones hors conflit armé, ce sont des provinces qui sont confrontées plus aux problèmes structurels, mais qui ont effectivement des besoins humanitaires par le fait que pour les Kasaï oriental en particulier, le gros problème réside dans la malnutrition, dans des conflits coutumiers, dans les épidémies, etc. Donc ce sont ces problèmes que nous avons mis en exergue pour pouvoir discuter autour de ce plan.
On parle de la communauté humanitaire. Ici au Kasaï oriental, elle est représentée par quelles agences?
Nous avons à ce jour, disons, 4 agences humanitaires, des agences des Nations Unies. Bien sûr que la FAO, qui est la 5e agence, a déjà fermé ses portes, il y a un point focal. Donc il y a l'OMS, le PAM, l'UNICEF et le PNUD. Pour les ONG internationales, nous avons Save the Children International, nous avons PROSANI, le projet santé intégré. Nous avons PAFSID, nous avons BICE. En ce qui concerne les ONG nationales, nous avons ADMIR, nous avons SDR, nous avons Caritas, BEDOM qui interviennent aussi. Ce sont ses partenaires, en plus des autorités provinciales qui ont participé à cet atelier.
Est-ce que le Kasaï oriental est aussi confronté au phénomène de déplacés et de réfugiés?
Oui, ce phénomène existe, mais il n'a pas une grande ampleur comme dans les zones de l'Est. Les mouvements ne sont pas très, très importants, mais ils existent quand même.
Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de la province auxquelles les humanitaires sont confrontés?
Oui, mais nous avons beaucoup de difficultés d'ordre logistique en particulier, et surtout l'accès vers le nord de la province, je veux dire les Sankourou. On a des problèmes réels de logistique, de praticabilité de routes. Mais il y a aussi d'autres problèmes en matière de financement. Comme vous le savez aussi, le financement est parfois très orienté en plus vers l'Est. Et vers l'Ouest, on croit qu'il n'y a pas assez de problèmes humanitaires, même quand ils existent effectivement. Mais il y a, disons, une insuffisance dans les financements. Mais aussi, il y a insuffisance des partenaires. Ce qui diminue un peu le nombre de personnes qui peuvent faire effectivement un plaidoyer auprès des grands bailleurs pour pouvoir venir effectivement en aide à la province.
L'un des objectifs du plan, c'est de réduire la mortalité au sein des populations de la province. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le taux de mortalité infantile, par exemple, au Kasaï oriental?
Bon, selon les enquêtes mixtes 2010, qui est menée dans la province, le taux est autour de 96 pour 1000 naissances vivantes. C'est pratiquement inférieur quand même à l'ensemble du pays, mais c'est encore élevé, il faut le dire.
Docteur Jean-Bruno Nguenze Kibunda, nous rappelons que vous êtes chef du sous-bureau OMS Kasaï oriental. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Kapi.
Merci, Monsieur Chris Mukande, pour l'opportunité que vous m'offrez. Merci.
Merci, Jean-Bruno Nguenze et Chris Mukande. Place à présent à la nouvelle de province. <t'-> Je voulais annoncer 40 000 enfants à inscrire en première année primaire, dont 18 000 fillettes. Voilà l'objectif que s'est assigné l'UNICEF pour la province du Kasaï occidental au cours de cette année scolaire, ce qui explique la campagne dans laquelle s'est lancé le bureau local de cette agence onusienne avec les autorités provinciales. André Kambala Moujanaï nous en dit plus.
Cette campagne rentre dans le cadre de sensibilisation des parents. En dehors de cette activité, l'UNICEF s'emploie aussi dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement en province. Pour l'année scolaire en cours, 103 écoles primaires ciblées par le programme éducation et 83 espaces communautaires de veille sont concernés. Tous ces efforts visent près de 10 000 écoliers, dont environ 4 000 filles. Pour le chef de bureau de l'UNICEF Kananga, Dr Basikila, que ces efforts soient accompagnés par des mesures comme l'élimination des frais de scolarité de la manière dont le gouvernement l'a déjà amorcé. Pour Alidor Mbengele, ministre provincial de l'EPSP, le gouvernement s'est déjà inscrit dans cette logique car il supprime progressivement les frais, identifie et intègre les enfants exclus du système éducatif et appuie les communautés locales pour le développement de l'éducation préscolaire. Signalons qu'au cours de cette cérémonie, 10 écoles primaires ciblées ont reçu les fournitures scolaires dont de l'UNICEF. De retour de Mikalaï, André Kambala, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Je m'appelle Madame Fifi Kikata. Je suis infirmière au service des urgences aux Nations Unies depuis 2004. Je travaille là-bas avec un médecin pour secourir les cas urgents qui arrivent avant l'évacuation dans les grands hôpitaux pour de meilleures prises en charge. J'arrive tôt pour me préparer mon service et mes matériels que je dois utiliser toute la journée pour bien accueillir tous ceux qui viendront auprès de moi pour avoir des soins. Avant la MONUSCO, je travaillais au centre médical de Kinshasa, SEMKA, au service des urgences, là où on appelle CPU, le centre privé des urgences. J'ai été formée par plusieurs médecins français et belges qui venaient travailler avec nous. Et c'est de là qu'on m'a pris pour que je vienne continuer mon service ici à la MONUSCO. Le matin, je me réveille tôt, comme j'ai 5 enfants qui vont tous à l'école. Je le prépare pour aller à l'école et moi je me prépare pour venir au service. On sort ensemble, je le dépose à l'école avec mon mari et après je prends mon bus, je viens au service. Quand j'arrive ici, la famille est restée, c'est le travail qui commence. Après le travail, quand je rentre, je les accueille d'abord. Quand j'arrive à la maison, je parle avec eux, comment s'est passée la journée à l'école, s'ils ont des devoirs, ils ont fait ça, je vérifie ensemble avec eux. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes au cours de la journée? Est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce qu'après ça, on regarde avec eux les dessins animés, on écoute la musique avec les enfants, on regarde la télé, on joue ensemble. Là, je redeviens maman à la maison. Les projets d'avenir. J'aime bien mon travail d'infirmière, mais je vais bien me perfectionner. Faire la santé publique. Ça, c'est ce qui me tient à cœur pour mes projets d'avenir. Un jour, faire aussi un bon hôpital pour notre pays ici, comme on a à la MONUSCO, avec tout le matériel et avoir des gens, aider aussi des autres infirmières. Merci beaucoup.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Je m'appelle Monsieur Pongo Landry, je suis enseignant à l'Université de Kinshasa. Voici ma question. L'UNICEF affirme avoir fourni des kits scolaires pour plus de 970 000 élèves et 2 600 enseignants au titre de la rentrée des classes 2012-2013. De quoi sont constitués ces kits scolaires et quelle est leur répartition géographique? Merci.
Merci pour votre question. Nous avons en ligne la consultante en communication au sein du programme éducation de l'UNICEF en RDC. Madame Cynthia Kanyere vous répond.
Merci beaucoup, monsieur Mbongo Landry, pour votre question. En fait, le programme éducation de base de l'UNICEF est en train de, de, distribuer des kits scolaires aux élèves et aux enseignants. Il y a trois kits. Un kit pour les élèves de première et deuxième année constitué de 7 cahiers, dont 2 cahiers 48 pages quadrillés, 2 cahiers 48 pages lignés, 2 cahiers 96 pages quadrillés, un cahier de dessin de 96 pages, et aussi un stylo à billes bleues et un crayon noir avec gomme. Pour les élèves de 3e jusqu'à 6e année, il y a 9 cahiers, dont 3 cahiers 96 pages quadrillés, 2 cahiers 96 pages lignés, un cahier 200 pages lignés, 2 cahiers 200 pages quadrillés, un cahier de dessin de 96 pages, un stylo à billes bleues et un crayon noir avec gomme. Le troisième kit, c'est un kit enseignant. Il est constitué d'une boîte de 100 craies blanches, une boîte de 100 craies couleur, deux stylos à billes bleues et deux stylos à billes rouges. Pour la répartition géographique de ces kits, il faut noter qu'ils seront distribués à 1250 écoles à travers toute la République, donc toutes les provinces sont concernées. Mais pour les provinces de l'Est, les kits seront transférés en liquide. Donc, il y a de l'argent qui va être transféré directement aux écoles de l'Est. Mais le nombre, le tout, c'est 1250 écoles qui sont ciblées, réparties dans toutes les provinces de la République. Ce sont spécifiquement des écoles que nous appelons « amis des enfants », où on est en train d'expérimenter cette approche, effectivement appelée « amis des enfants ». Peut-être qu'on aura une occasion d'y revenir en détail.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capus.
Une seule date à retenir la semaine prochaine, le vendredi 21 septembre, ce sera la célébration de la Journée internationale de la paix. Plusieurs activités seront organisées en République démocratique du Congo sous le thème « Une paix durable pour un futur durable ». À Kinshasa, c'est le site du Jardin botanique qui servira de cadre de 8h30 à 13h. Le gouvernement congolais et la MONUSCO vont donc célébrer cet événement la main dans la main. Numéro de votre magazine, il vous a été présenté par Mireille Bukasa Mukendi grâce au concours de Honoré Missenga et Ben Kabamba. Vous pouvez le réécouter ce dimanche même à 19h03, mais aussi sur notre site internet www.radiotapi.net. Merci de votre fidélité, à la prochaine.